Vous êtes bien sur Canal Sud 92.2, c'était La Bulle Coincée, et tout de suite c'est l'émission Crio Cuervos.
Crio Cuervos.
Crio Cuervos.
Crio Cuervos.
Parce que les corbeaux qui se déploient dans nos têtes échappent à la réalité de la cage dans laquelle on évolue. Crio Cuervos se veut un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans les institutions du pouvoir et au plus profond de nous, ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève, un peu de la pétarade euphorique qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tout ce béton et ces barbelés qui enserrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réarmer et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policiers de l'expression raisonnable. Un espace où les fêlés du casque ont libre antenne. Un lieu vers la révolte. Crio Cuervos prétend être un outil de résistance au pouvoir psy. Un élan vers des pratiques collectives dans un processus de libération de la psychiatrie. Nuestra pasión no es diagnosticable. Notre passion n'est pas diagnosticable.
Alors, à l'heure du sommaire, on va faire un compte rendu sur le week-end des co-écoutes organisé par les SAS, Santé Active Solidaire, une association transpédéouille féministe à Toulouse. On aura aussi des brefs avec des nouvelles croustillantes. On parlera des rapports coopératifs. Et pour finir, nous aborderons les effets de l'obligation et de la privation sensorielle.
Shoulders going
aussi bien sur Canal Sud, sur Crio Cuervos. Alors voilà, on va passer à les brefs et croustillants, en disant que vous pouvez toujours nous appeler au 05 61 53 36 95, les préférences pendant les morceaux de musique.
Et oui, et comme ça, on pourra discuter avec vous si vous nous appelez. Du coup, on va se faire des petites brèves pour vous parler un petit peu de l'évolution des médicaments. Et au mois de septembre prochain, on a appris par un journal belge qu'il y allait sortir des médicaments avec des puces à l'intérieur. Et il y aura, ça va démarrer en Angleterre avec un réseau d'officines anglaises qui s'appelle Lloyd Pharmacy, qui va commencer à diffuser ces petites micro-puces électroniques ingérées par le médicament. Et donc, en fait, c'est coulé dans le corps de la pilule. C'est gros comme un petit grain de riz. Et en fait, ça contient une toute petite quantité de magnésium et de cuivre. Et quand ça va se dégrader dans les sucs gastriques de l'estomac, ça va produire un petit signal électrique, comme tous les aliments qu'on ingère, en fait, ce qui génère naturellement un certain voltage. Et donc, on va placer sur la personne qui aura ingéré ces petites pilules un patch, comme aujourd'hui on met des patchs nicotiniques. Et bien là, ce patch sera censé répertorier tous les petits signaux électriques et montrer sur une semaine, par exemple, tous les médicaments qui ont été ingérés. Alors attention, est-ce que ça va être un outil de contrôle ou un gadget ? En tout cas, c'est censé nous renseigner sur l'observance du médicament. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions. C'est assez discret.
Mais, ouais. Mais ça va être un moyen de flicage, ça, c'est sûr.
Tout à fait. Ouais. Il nous le prévoit pour la psychiatrie, je pense.
Mmh. J'imagine, c'est bien. Après les oraux dispersibles qui se dissolvent dans la bouche, on aura celui qui se dissout dans l'estomac. Mais en plus, voilà, avec une quantification possible
de la quantité idéale ingérée.
Toutes les semaines, quand tu viendras à l'hospice de jour pour ta consulte, hop, on... on lit le patch.
On lit le patch et on sait si tu as pris ton traitement ou pas.
Voilà. Peut-être même ce sera géolocalisé, comme ça on saura où tu as pris ton médicament.
C'est pour bientôt.
Qu'est-ce qu'on peut inventer,
nous ? En tout cas, les comités d'éthique ne se sont pas prononcés là-dessus. Ouais. On ne les entend pas.
Et pas tant. Alors voilà, on va continuer avec notre bref, que c'est une bonne croustille. Voilà, c'est apparu dans les Figaro, le 7 mars dernier, un jour avant la journée de la femme, et ça a été repris par cette gros torchon du sud, que c'est la dépêche du midi. Et attention, c'est la pilule qui rend les gens moins racistes. Mais oui, quelque chose comme ça, c'est incroyable. On n'a pas besoin de faire un travail sur nous. Il ne faut pas remettre en cause toute la culture colonialiste, pas du tout. Il faut tout simplement avaler une pilule et comme ça, par magie, voilà, tout l'inconscient qui se développe raciste, voilà, apparemment il va disparaître. Ou s'il ne va pas disparaître, en tout cas, il va un peu s'amoindre, il va être un peu plus tranquille, parce qu'apparemment, c'était une pilule qui, à la base, c'était fait pour les gens qui avaient des problèmes de corps. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que, voilà, quand tu manges ces pilules, ça t'endorme, alors tu deviens moins anxieux. Et quand tu deviens moins anxieux, t'as moins peur. Et comme le racisme, c'est associé à la peur, voilà, ça veut dire que, voilà, s'ils te donnent une pilule qui t'endorme, tu vas devenir moins raciste. Tu vas devenir moins homophobe, tu vas devenir moins patriarcal, voilà, tout ce que tu veux, alors ça promet.
Et aussi sans doute moins anti-flic, puisque tu auras moins peur du flic que tu croises dans la rue.
Effectivement.
Elle peut avoir plein de fonctions, cette pilule.
Oui, elle est magnifique.
Ça promet.
Et le comité d'éthique, toujours pas non plus.
Non, il ne sait rien sur le comité d'éthique.
Ah là là, mais que font-ils ? Troisième brève, dont on a pas mal entendu parler, mais on doit quand même s'en faire l'écho, puisque ça concerne directement le sujet de l'émission. C'est à propos de ce militant écolo qui s'est retrouvé hospitalisé d'office. Donc pour faire un petit récapitulatif de l'histoire, le lundi 26 mars 2012, il est allé s'attacher avec un antivol de moto au puits de sa mairie, une petite commune de l'Hérault, d'un village qui s'appelle Loupian. Il s'est attaché à cette grille pour protester contre le déclassement d'une partie du territoire de la commune qui était classée Natura 2000, donc qui protégeait l'environnement. Le maire s'est effrayé parce que malheureusement la grille du puits n'était pas à même de supporter le poids du corps. Et donc, attention, il a appelé la gendarmerie, les pompiers et il a réussi à faire hospitaliser d'office en signant l'arrêté nécessaire et en faisant signer par le médecin des pompiers le côté médical de cette hospitalisation. Et donc, ce Jean-Pascal s'est retrouvé dans un centre de secours, puis à l'hôpital psychiatrique de Montpellier, la Colombière. Et à cet HP, ils ne sont pas étonnés que le gars déboule entouré de gendarmes, et ils ont effectivement voulu le garder, parce que il refusait de se faire, entre guillemets, soigner. Soigner de quoi ? Sans doute de son militantisme et de ses convictions, parce qu'à un moment, il faut hospitaliser les gens, peut-être pour qu'ils changent d'avis. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, avec cette nouvelle loi dont on peut faire un peu tout encore.
Il est sorti.
Il est sorti après 8 jours.
8 jours d'hospitalisation.
Voilà. Il est sorti après 8 jours, et donc il y a eu quand même des réactions multiples, de la LDH, des faucheurs d'OGM, etc. Il y a un comité qui s'est monté, comité contre l'utilisation politique de la psychiatrie, qui s'est monté le 7 avril. Et le constat général, c'est quand même que dorénavant, tous les troubles à l'ordre public, pour peu qu'on puisse donner l'impression que la personne qui vitupère met sa vie en danger, tous ces troubles-là peuvent être psychiatrisés, solution de facilité, puisque pendant 48 heures, la personne est privée de liberté.
Hospitalisation complète.
Hospitalisation
Garde complète. À vue psychiatrique.
Garde à vue psychiatrique, exactement. Et donc, suite à sa libération, il y a quand même l'idée de traduire devant le juge administratif les arrêtés du maire et du préfet, parce que c'était quand même légèrement limite. Et il parle également d'une plainte au civil. Sur le site de la LDH locale, il signale aussi la situation d'Alain Paya-Poirel, qui est un berger, qui est interné, lui, depuis 10 mois dans le Gard, après que ses 59 brebis aient été abattues sur décision du maire en 2006. Il avait réagi, entre guillemets, violemment. Bon, le site ne dévoile pas de quelle nature était cette violence. Toujours est-il que les soignants où il a été hospitalisé d'office n'estimaient pas qu'il avait une pathologie particulière ni de troubles du comportement. Ils ont demandé au juge de la détention, de lever l'HO, ce qu'il a fait. Seulement, le parquet a fait appel. Et donc, le gars, il est toujours en HO. Voilà.
Depuis 10 mois.
Ouais.
Il ne fait pas bon lutter de nos jours.
Exactement. Tout est risqué. Un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est encore moi qui parle du coup.
On t'écoute.
Mais oui, allez, vas-y.
C'est à propos du week-end co-écoute organisé par SAS, Santé Active Solidaire, qui est une asso de santé transpédéguine, santé communautaire, qui avait déjà organisé, ce qui concernait notamment, qui nous concernait nous, plus particulièrement, un week-end en octobre l'année dernière, sur réagir et soutenir individuellement et collectivement quelqu'un qui va pas bien. Ça a donné lieu à une brochure. Si vous êtes intéressé par la brochure, on peut la faire circuler, elle est là, elle existe. Et en tout cas, ce week-end, donc c'était il y a quelque temps...
Un mois, deux, trois semaines.
On était 18 participants, participantes... après s'être présenté, donc l'idée c'était de voilà d'aborder la co-écoute, qui est un outil qui est très codifié par certains réseaux quasi institutionnalisés parce qu'ils labellisent un peu la pratique en mettant plein de garde-fous et de consignes quand même relativement straight pour pratiquer ça. Et là, c'était un abord beaucoup plus plus fluide. Et moins.
C'était du côté de l'expérimentation personnelle, voilà. Que tout le monde tente de faire ça par soi-même pour voir ce qu'il en était.
Ouais, exactement. Et dans l'idée aussi, ben, on peut aussi faire une co-écoute à sa sauce. C'était leur version de la chose aux gens qui étaient là, un peu quand même, j'ai l'impression.
Après, il y a aussi des gens qui font de la co-écoute et qui sont dans une vision plus estreinte, comme ce que tu dis, qui ne sont pas du tout institutionnalisés, mais qui trouvent qu'il faut que les cadres soient très, très clairs et. Voilà.
Tout à fait. Mais c'est ça qui m'a un peu... Donc, pour refaire un peu... Pour expliquer comment moi j'ai connu la co-écoute, c'était essentiellement en mars... à l'automne l'année dernière, au Mas d'Asile. Il y a quelqu'un de la Drôme qui fait de la co-écoute depuis longtemps, qui était venu présenter ce que c'était. On avait fait un atelier avec lui. Et effectivement, il avait donné tout un cadre avec des grands principes. Comme par exemple, donc le principe de base que SAS reprenait de toute façon, c'était l'idée que de la co-écoute, donc c'est deux personnes, ou en groupe ça peut se faire, mais deux personnes qui parlent à tour de rôle un temps identique. Donc, par exemple, moi, je parle 20 minutes et toi, tu me parles 20 minutes après.
Et pendant que tu me parles, je ne dis rien, je t'écoute. Je suis empathique et je réceptionne ce que tu me dis.
Exactement. Avec la petite nuance qu'on peut convenir d'entrée, que moi, peut-être, c'est plus facile pour moi si de temps en temps, tu relances un mot de ma phrase, par exemple.
C'est contractualisé au départ, entre
voilà,
guillemets.
Voilà, c'est calé d'avance. Voilà. Et donc, on se parle comme ça à tour de rôle. Ce que disait Yves Omas, c'est donc, il mettait beaucoup l'accent sur la décharge émotionnelle, en expliquant comment toutes les expériences un peu traumatisantes qu'on a pu vivre se sont cristallisées un peu en nous, et que cette décharge émotionnelle au moment de la co-écoute, le simple fait d'avoir une écoute empathique, peut permettre de revivre par la parole, ou la parole servant de stimuli, de revivre cette émotion initiale, de s'en débarrasser et de pouvoir revivre de manière plus adéquate les événements prochains que la vie nous propose.
Oui, et puis ça a une fonction de dépôt des sentiments qui étaient associés à ce vécu pour le retrouver avec plus de recul après.
Ouais, voilà. Et bon, cet aspect des charges émotionnelles, on ne l'a pas vraiment évoqué lors du week-end avec SAS. Ça s'explique peut-être parce que c'était d'abord une approche un peu expérimentale, voilà, découvrir un peu. On a d'abord fait un atelier sur qu'est-ce que c'est l'écoute pour nous, donc on était en groupe de 4-5, à mettre en avant que c'était quand même une technique qui demandait de se rendre disponible, d'abandonner ses préjugés, qu'il fallait qu'il y ait un consentement de la personne pour écouter, que c'était vraiment pas facile des fois de se défaire de cette habitude de donner des conseils, d'apporter des solutions, alors que l'autre peut venir juste dans le besoin d'une oreille attentive. On s'est aussi questionné sur mais est-ce qu'on a besoin d'être comprise ou d'être entendue, et de la nuance que ça pouvait représenter. De l'importance de la parole aussi dans des groupes militants, parce que quand on parle peu, au final, de soi, on empêche aussi l'autre de nous connaître, et que cette parole peut être après un levier pour revendiquer son identité ou ses identités, qui on est, etc. Et que c'était un outil important et que peut-être on ne mettait pas assez en avant dans nos pratiques militantes ou dans notre entre-soi, le se dire, quoi. Voilà. Dire qui on est et qu'est-ce qu'on en fait.
Ouais, puis il y a quelques exemples. Par exemple, quelqu'un qui pourrait visibiliser pendant une séance ou un échange de co-écoute, je ne sais pas comment on pourrait le dire, qui pourrait visibiliser un vécu de fragilité ou de faiblesse, permettrait peut-être à l'autre de visibiliser ça chez lui. Ce qui est intéressant aussi dans la co-écoute, c'est que co-écoute, donc on n'est pas dans la dette. C'est-à-dire, tout de suite, on va inverser les rôles et l'autre va nous faire porter son poids, entre guillemets, son poids affectif. Et du coup, on sort un petit peu d'un système institutionnel où soit on va payer pour pas être dans la dette, soit c'est vraiment instituer l'autre en place de pouvoir savoir soignant qui pourrait avoir des solutions pour nous. Là, c'est vraiment un système de réciprocité où chacun s'écoute à tour de rôle et a une fonction d'aide et d'entraide.
Moi, quand j'avais fait la co-écoute avec une autre personne, il était dans un réseau assez cadré, comme ce que tu disais, et eux, ils ne voyaient pas la co-écoute que comme un outil, sinon c'était plutôt comme un réseau, et c'était quelque chose de politique pour eux, parce qu'ils trouvaient qu'ils pouvaient changer le monde d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas qu'un outil, sinon c'est aussi une façon de faire politique.
Voilà. Qui servirait à visibiliser un acte politique par la parole ou...
Qui servirait déjà de décharger émotionnellement, et ça permettrait de nous débarrasser de pas mal de trous qui nous empêchent d'avancer. Je trouve que voilà, c'était surtout à partir de cette approche.
Ou de visibiliser des vécus d'oppression, ce genre de choses.
Ça aussi, pourquoi pas, mais je crois que surtout c'est par les principes, si j'ai bien compris, qu'on en décharge émotionnellement, et on a moins de trous qui entraînent et on est plus libre pour faire ce qu'on veut aussi. Mais tu as raison aussi par rapport à visibiliser les dominations et tout. Mais je crois que c'est surtout pour voir, voilà, pour être plus libre de suivre notre désir, par exemple.
Ouais, mais c'est quand même pratiqué par des groupes en non-mixité, que ce soit femmes, racisées, trans, etc. Et que c'est aussi une manière de se penser à plusieurs, mais dans un espace où on est serein et en confiance, quoi. Ouais. Et voilà, que cette confiance, elle revient vraiment comme un truc important. Et Juste pour finir sur le week-end de SAS, il y a eu aussi l'expérience de co-écoute à trois, avec un écoutant, un écouté et un observateur, avec une plus sur l'écoute active. Donc c'est toujours en phase d'expérimentation, de voilà, on voit ce que ça nous fait. Et donc il y a un noyau de réseau qui commence à se monter à Toulouse, non labellisé, mais voilà.
Et après, c'est vrai que il y a un certain nombre de règles, mais peut-être qu'il y a certaines règles qui sont quand même très importantes. Tu parlais du non-jugement dans l'écoute.
Ouais.
Il y a aussi le souci de confidentialité sur ce qui se dit à l'intérieur de ce petit trio ou duo. Tout ce qui se dit reste dans le groupe, ne sort pas. C'est pas quelque chose qui est diffusé ailleurs.
Il y a plein de autres règles aussi, et ça vaudrait le coup peut-être d'un autre jour parler bien tranquillement de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de autres règles qu'il faut tenir en compte pour que ça se passe bien. Parce que notamment les gens qui font de la co-écoute, ils vont surtout prendre soin de ce qu'ils font. Et voilà. Et je me rappelle les deux fois que je l'ai fait, ils étaient assez attentifs à nous rappeler ce qu'il faut faire ou pas, et nous donnant certaines libertés, mais voilà, il y avait des trocs à craindre. Voilà, nous on l'expliquera une autre fois peut-être, non ?
Ouais. On y reviendra, oui. Ouais.
Je suis d'accord avec toi que ces règles-là, moi j'ai trouvé importantes, et aussi le fruit de l'expérience de, je sais pas, un siècle, deux siècles de co-écoute, ou mine de rien,
moins,
si on en
moins,
a...
Hein.
Ouais. 60 ans. Que mine de rien, si elles ont émergé, ces règles, c'est pour que ça se conduise dans de bonnes conditions, quoi.
Mm. On va laisser un morceau de musique peut-être ou...
Oui.
Allez, hop.
Hop, les...
Dans une de ces villes habitées, je respire la poussière de vanité, canalisée par un monde déshumanisé. Ceux qui s'y sont intégrés sont ceux qui raclent. La crasse, la débâcle, érigée en spectacle. Je respire la concurrence, l'opulente hiérarchie, qui enfume les villes du monde où la finance s'élargit. L'odeur froisse le silence des opprimés en léthargie. Que la ville se répartit sous les portiques des parvis. Je respire la violence des villes, sa crasse, son poison. Ma cervelle intègre le style, l'odeur, le blason. Quand j'arrive devant le portail de ma propre maison, je n'ai pu essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. L'extérieur me ronge comme la rouille ronge le fer. Incruste mes songe contamine mon repère. Ma cervelle éponge la crasse du quotidien. Cette saleté du quotidien que l'esprit récupère. S'adapter aux choses horribles, c'est en être synonyme. Je suis cousu des fils tissés à l'armature des villes, nouées par le sordide. Que la crasse consolide l'ignominie torride que la ville endoctrine. Elle et lui croient qu'une fois chez eux dans leur tour d'ivoire, la répugnance du jour s'oubliera dans leur tiroir. Mais la crasse des civilisations, nous la maçons, sans pouvoir essuyer le crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Je comprends mieux cette envie de faire sa vie dans la brousse. Je pourrais lâcher mon armure, me découvrir d'origine. Je ne serai plus une vermine parmi d'autres qui m'éclabousse, comme la rose tomberait l'épine sans le cueilleur misogyne. Je n'arrive pas à retrouver mon naturel. J'ai cueilli violence et mépris dans les tunnels. Les germes de la crasse la plus cruelle débordent de mes prunelles et ne s'envolent pas parce que j'arrive au coin de ma ruelle. Elle pollue les champs d'enfance que le cœur élabore, perturbée par la violence que la ville évapore. Crasse des civilisations que nous amassons, sans pouvoir essuyer le crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais pouvoir essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime, j'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime, j'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson.
Ah, Alors voilà, on va passer à les rapports coopératifs. Alors voilà, pour vous parler des rapports coopératifs, je vais vous expliquer où est-ce que j'ai trouvé un texte que j'ai traduit. Alors voilà, ça fait quelques années, j'ai trouvé un texte sur une fanzine qui s'appelle Alejandra. C'est une fanzine anarcho-féministe. Et voilà, il intitule ça « Apprentissage anarchiste ». Alors voilà, et pourquoi il faut... Non, pas pourquoi, mais sinon, dans quel cadre on va utiliser cet rapport coopératif ? Il intitule ça « Cette attitude pour des rapports coopératifs ». C'est Antonio Palomar qui l'a écrit. Et voilà, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on utilise ces rapports coopératifs quand on croit qu'il ne faut pas avoir des rapports de pouvoir entre les gens. C'est que ça veut dire qu'on va utiliser ce cadre avec les personnes avec lesquelles on peut imaginer qu'on peut envisager une certaine horizontalité. Si on veut être dans les rapports de pouvoir parce qu'on considère que c'est important, voilà, ce n'est pas le cadre. Alors voilà, c'est pour les personnes qui... entre nous, on va dire. Alors voilà, je vais vous les lire. Il y a 7 points. Alors voilà, les premiers points, c'est être sincère sans dévaloriser ou culpabiliser. Ça veut dire ne pas mentir par commission, disant une autre chose, ni par omission, cachant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce truc de ne pas mentir par commission, disant une autre chose? Par exemple, si moi je demande à un de mes copines, par exemple à Elo, à Sandra, je dis, tu sais, toi, tu connais un gars qui s'appelle, je ne sais pas, Federico, et toi, au lieu de dire non, oui, tu vas me mentir, tu vas dire ah, écoute, tu sais, voilà, je viens d'oublier que j'ai des pâtes au four. Alors voilà, ça c'est pour.
Mais ça va pas du tout, les pâtes au four.
Voilà. Mais oui, tu mets les pâtes au four pour les griller et tout. Les
oui,
gratiner.
Mais tu parles pas de Federico pendant ce moment.
Non, c'est ça, tu parles pas de Federico. Alors ça c'est par omission, en cachant. Après, si par exemple tu connais à Federico, mais tu veux pas dire que tu les connais, voilà, tu dis ah non, non, ça me dit rien, Federico, écoute, Federico Rasti, alors qu'à oui, mais l'autre Federico pas du tout. Alors voilà. Alors, pas mentir. Il y a un autre que si la sincérité est une attitude contagieuse et nous permet de nous ouvrir, mais n'est pas une valeur absolue. On peut faire très mal en disant la dure vérité ou en vomissant notre soulagement.
Ouais. Bon, il y a des façons de dire les choses, du coup.
Ouais, des façons. Et aussi, il y a des choses que parfois, c'est mieux, je ne les dis pas. Par exemple, si on trouve qu'il y a quelqu'un qui est vraiment moche, écoute, ça ne sert à rien de les dire, non? Par exemple.
Oui, puis c'est peut-être pas la peine de faire violence en retour à
si
une
on
violence
fait un
qu'on a subie.
Un groupe non mix moche.
Ouais, ça c'est clair. Ah bah ouais, à ces cas-là, oui. À ces cas-là, t'es très moche. Ah, merci. À ces cas-là, c'est parfait, oui. Et, alors voilà, la deuxième attitude, c'est pas délivrer, faire les saboteurs ou les saboteuses. On se sacrifie par les autres à dépens de son bien-être. Ce n'est pas de la véritable aide. Ne rien faire pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment. Si quelqu'un nous demande de l'aide, ne pas faire plus que ce que l'autre personne peut faire par elle-même. Ça, c'est un peu... voilà. C'est un des points que pour moi...
C'est intéressant, on pourrait analyser après et réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'aide et qu'est-ce que c'est que se placer en posture d'aide. On est là pour sauver l'autre, à quel moment on peut poser la limite et quelle limite l'autre peut poser pour nous.
Carrément. Et aussi, on s'est dit, mais comment on ne peut pas faire... S'il y a quelqu'un qui nous demande un truc... ça, c'est contradictoire, n'est pas faire plus que l'autre personne peut faire par soi-même. Sinon, il n'aurait pas demandé l'aide. C'est que ça veut dire qu'à un certain moment, par exemple, moi, j'aime bien jouer la guitare, mais j'arrive pas très bien à accorder la guitare. Il faut le reconnaître. Et parfois, je vais demander à quelqu'un de m'aider à accorder la guitare. Et voilà, la première fois, peut-être qu'il va m'aider à l'accorder. Il va le faire très bien. Parfait. Mais après, il va y avoir un moment qu'il faut que j'ai l'autonomie pour le faire. Alors, je ne vais pas les demander tout le temps cette aide. Sinon, tout simplement, peut-être qu'il faut que je trouve un accordeur électronique, par exemple. Voilà, moi, je le vois un peu dans ce cadre-là. C'est vrai que je me fais aider par une machine. Mais...
Le support technique.
Support technique, ouais, c'est important. Après, il y a un troisième, que c'est demander la permission, n'est pas imposer, voir si l'autre personne veut chercher un bon moment pour communiquer. Ça rejoint un peu l'histoire de la co-écoute. C'est vrai que parfois, voilà, on a envie de dire des choses, surtout parce qu'ils sont touchés, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait mal. Et c'est dans ces moments qu'on veut parler. Et si on veut être dans un rapport coopératif, il faut demander toujours à l'autre s'il est disponible pour l'écouter.
Si c'est le bon moment pour lui de parler.
Ouais, s'il est disponible, parce que sinon ça sert à rien. Sinon, voilà, il va pas avoir une bonne communication. Après, il y a un quatrième point, que c'est montrer l'affectivité, caresse, aux valorisations positives. Alors d'abord, il faut réapprendre à les donner, car on les aime et les autres ont besoin. Réapprendre à les demander, car on les aime et on a besoin. Réapprendre à les refuser, dire non qu'on n'a pas envie. Réapprendre à l'accepter, distingue les authentiques et ceux qui nous font du bien. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Parce que, voilà, parfois, on peut tendre vers une espèce de manipulation à travers l'affectif. Par exemple, quand tu veux convaincre quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est que tu t'approches et tu les prends dans la main. Et comme ça, normalement, ça passe un peu mieux. Alors voilà, c'est un travail aussi à faire, hein, à distinguer les authentiques et ceux qui nous font du bien. Aussi, le dernier point, c'est réapprendre à s'élever soi-même, autovalorisation, amour propre. Ouais,
Surtout dans une société où le rapport au corps devient de plus en plus interdit ou tabou, ou alors lié à l'intime.
Oui, ou commerçant.
Quoi. Ou commerçant, tout à fait. Ouais.
Tout à fait. La cinquième attitude, c'est partager les sentiments contenus, les écouter avec respect. On a un sentiment contenu quand quelqu'un fait quelque chose et qu'on se sent mal. Ce n'est pas les faits qui nous rendent mal, mais comment on les reperçoit. Il est important de ne pas les garder ni de les laisser s'accumuler. Il faut les dire sans culpabiliser, en se faisant responsable de notre sentiment. Les dire d'une façon dépassionnée, descriptif et avec cette formule. Un verbe, je me sens, un adjectif. La personne qui le reçoit, la personne qui le reçoit, l'écoute avec respect. Ça veut dire voilà, que quand t'es énervé, ça sert à rien de dire « Mais putain, t'as fait ça, tu comprends pas !» Non, c'est plutôt « Écoute, quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça. »
Oui, même si l'intensité de ce qu'on vit est intense, ça reste de notre côté. C'est comme ça que je le perçois.
Ouais, exactement. Et voilà. La sixième attitude, c'est à moi, ça me plaît bien, cette sixième attitude. J'avais jamais vu avant d'avoir lu ça. C'est partager les fantasies, y répondre sans les dévaloriser. Ce sont des pensées sur des autres personnes, intuition, imagination, interprétation. Il peut être certain ou à peine réel. C'est un travail en équipe entre les deux personnes. Si on les exprime bien, en supposant qu'on peut se tromper, ils sont très utiles. Pourquoi ils sont très utiles? Pour mieux connaître cette personne, pour que cette personne se connaisse mieux elle-même, pour éclaircir les malentendus et dissoudre les paranoïas, pour être terre à terre. Ouais.
Ça, c'est un truc qui avait été mis en avant aussi pendant le week-end de SAS. Comment la co-écoute, ça pouvait être un outil pour résoudre les conflits entre deux personnes, notamment quand on a trop interprété sur l'autre ou quand on s'imagine à tort et à travers des trucs. C'est bien de prendre ce temps, je sais pas, 10 minutes, tac, j'ai l'impression que, je t'ai l'impression que tu fais ci, ça, 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 ça. Et après, retour éventuel par l'autre.
Qui peut aussi permettre, c'est vrai, à la personne à qui on dépose ça, de se rendre compte peut-être de ce qu'elle produit chez les autres alors qu'elle s'en rendrait pas compte.
Voilà, par exemple.
En dédramatisant tout ça.
Tout à fait. Et alors voilà, toute cette attitude, il faut les dire clairement. Toutes ces fantasies, il faut les dire clairement, y répondre en essayant de reconnaître la part des vérités. Il ne doit jamais être refusé, car nous supposons que les êtres humains sont intelligents et intuitifs. Mmh. Ça, c'est beau. Mmh. Tu vois, comme ce qu'on racontait là, ça fait un mois, ça provient de cette idée roussonienne qu'on est intuitif et magnifique, tout ça. Voilà, c'est la même crique, c'est le même groupe. Et voilà. Et le dernier point, c'est demander des excuses, accepter les excuses. Supposant que tout le monde fait son mieux dans les circonstances données, malgré tout, parfois, on fait mal sans le vouloir consciemment. Demander des excuses, c'est dire « je suis désolé, je n'ai pas voulu te faire du mal ». C'est vrai que comme parfois on dit « je m'excuse, toute excuse, et pourquoi tu ne demandes rien ?» Plutôt « je suis désolé », si tu dis « je m'excuse », tu t'excuses tout seul. Et la dernière, l'autre personne, dans son rapport coopératif d'entraide, l'excuse. Voilà.
Mmh. Voilà. Tout un programme de relation à l'autre qui donne un peu plus de perspective que tous les malentendus permanents.
Ouais, quand même.
Formidable.
Pour Village.
Et donc dans la suite, on voulait vous présenter un petit morceau de musique. Il se trouve que c'est un morceau de Schubert, donc c'est un peu, ça peut paraître étonnant dans une émission qui commence par des grands cris. Mais voilà, c'est pas du cri, c'est un Lieder, donc c'est les chants Lieder romantiques allemands que Schubert a composé en 1828. Pour la faire courte, c'est donc il y a 24 Lieder dans cette composition qui s'appelle Un voyage d'hiver. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'est fait plaquer par sa meuf, on va dire comme ça, et qui part, qui fuit la ville, il fuit le domicile de sa bien-aimée, il fuit la ville dans la même nuit, et il va errer dans des paysages désolés, et c'est une descente vers la folie, la pure errance, de délire existentiel, vers le bord blafard du monde, et il chante ses douleurs dans un mouvement comme ça... assez désespéré, Et donc le morceau que j'ai choisi, ça s'appelle La Corneille, puisque notre émission a pour titre J'élève des corbeaux. On envoyait la cousine allemande La Corneille. Je vous fais juste vite fait la traduction du lead. Une corneille m'avait suivi hors de la ville, et jusqu'à maintenant, sans cesse, elle a volé au-dessus de ma tête. Corneille, étrange animal, ne veux-tu pas me laisser ? Crois-tu donc te saisir de mon corps comme d'une proie ? Allons, cela n'ira plus bien loin avec mon bâton de voyageur. Corneille, montre-moi enfin ce qu'est la fidélité jusqu'au tombeau. Cette corneille est donc une allégorie un peu de la mort, comme ça, qui rôde en permanence sur toute la composition. Et c'est le morceau 15 sur 24. Donc voilà, on a déjà bien entamé l'errance morbide.
Der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe.
On sent bien la corneille qui nous tourne autour. Du coup, on va poursuivre autour d'une idée qui est la privation et l'obligation sensorielle qu'on fait subir aux... Allez, aujourd'hui, on dirait aux militants. À l'époque, je ne sais pas comment on disait. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, on aimerait bien vous parler de Gérard Hoff. Gérard Hoff qui a été interne en psychiatrie à l'hôpital du Vinatier à Lyon aux alentours de 1975. Et donc, par la suite, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Je ne serai plus psychiatre ». Et donc, à la suite de cette révolte de l'hôpital du Vinatier, avec où il a failli perdre un œil d'ailleurs, avec une altercation avec la police, il quitte la France et il débarque en Allemagne. Et en Allemagne, il est arrêté au mois d'octobre 1976, où il est soupçonné d'être membre de la fraction Armée Rouge. Et donc, il sera retransféré en France en décembre 76. Donc, il va passer 3 mois en premier lieu à la prison de Wittlich et après à l'hôpital prison de Wittlich. Et donc, il va vivre plusieurs séquences qui vont... Donc, il est arrêté par la police à Koblenz en octobre 76 et il est dirigé vers la prison. Et il est mis aux oubliettes, entre guillemets. Il est seul dans une cellule, presque. Il n'y a pas de lumière, il n'a pas d'objet. Il est vraiment privé des objets les plus élémentaires. Et donc, il s'exprime dans un livre qui est « Lettre au docteur Hüttler à l'hôpital prison de Wittlich », un petit bijou trouvé dans la bibliothèque d'une copine, offert par un copain. Donc voilà, passons les sources. Donc il nous dit « Sans doute, je savais toujours comment je m'appelais, mais je perdais la notion du temps. Je passais sans transition de l'état de rêve, ou plutôt de cauchemar éveillé, à celui de sommeil, incapable de faire le décompte des jours qui s'écoulaient. Je me souvenais fort bien des circonstances qui m'avaient amené là, mais il me semblait que j'y étais depuis une éternité, pour une éternité. Mes gestes devinrent extrêmement lents et maladroits, Mon acuité visuelle baissa considérablement, au point que je ne pouvais plus ni lire ni écrire. Je perdis pratiquement l'usage de la parole, qui, à l'image de mes gestes, devint extrêmement lente et saccadée. Je dormais souvent, et je me rappelle comme d'un souvenir brumeux, onirique et répété, gris comme les murs, de situation m'apportant cette, de gardien m'apportant cette portion bleue, exiger que je la boive devant eux et repartir. La potion bleue, on n'a pas de détails sur ce qu'il en est, mais on suppose que c'est un médicament psychiatrique qui est fait pour l'endormir. Donc là, il est dans une première phase qui est une privation sensorielle. Il est dans une première partie de l'hôpital-prison. Et par la suite, donc, sans transition, il est transféré à l'hôpital-prison de Wittlich. Et pour une raison pseudo-médicale suite à une crise d'épilepsie, puisque Gérard Hoff est épileptique. Et donc, il passe les premiers jours dans la solitude totale. Et donc, il nous dit encore, cependant, à mesure que mes capacités sociales se rétablissaient, le besoin de relations avec autrui recommençait à se faire sentir. Pour le détenu Strangiert, Isoliert, excusez-moi pour l'accent allemand, l'absence de relations transversales n'entraîne pas obligatoirement une revendication clairement verbalisée, n'apparaît pas nécessairement comme un besoin conscient. Il cite que les relations avec les supérieurs, les gardiens, les assistants et les médecins ne comptent pas, elles sont plus destructrices que réparatrices pour lui. À quoi cela rime-t-il de spazieren sous le regard omniprésent du gardien dévolu à votre seule personne, vous empêchant de cueillir une fleur ou un brin d'herbe, s'interposant précipitamment au moindre échange furtif, gestuel ou verbal avec un détenu travailleur que les hasards du service faisaient croiser inopinément votre chemin dans la cour. Cette absence de relation transversale commença à se manifester chez moi, alors là il va citer les premières manifestations, par la perception d'une sorte de flux dissolvant interne et surtout par des crises d'hypertension interne généralisées, insupportables, perçues comme musculaires, accompagnées de la sensation d'avoir une enveloppe corporelle rigide avec une coquille minérale. Je pense que cette sensation d'enveloppe rigide correspond à l'intégration de la fonction contentieuse des murs de la cellule. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est interne en psychiatrie, donc c'est un peu son langage et sa lecture, mais il commence à traduire en quoi, à un moment donné, le corps, c'est vraiment le corps qui se rigidifie, tout est tendu musculairement, et c'est vraiment l'équivalent instinctuel vécu de la carence de relation. Il explique que les crises deviennent de plus en plus fréquentes, alors il essaye de se faire de son corps, il dit « ton corps est un ami », me disais-je dans mon langage intérieur, « il se fait des massages ». Donc ça, c'est toute la première partie de privation sensorielle. Peut-être après, mes comparses vous parleront d'autres formes de torture, parce que ensuite, il est sans transition plongé dans l'aile principale de l'hôpital, c'est le quartier général pénitentiaire, qui est construite à Wittlich autour d'une forme d'une croix, comme dans les cathédrales gothiques, avec des portes de cellules innombrables et réparties à perte de vue sur toute la longueur, des deux côtés et sur chaque étage des quatre bras de la croix. Dans cette galerie centrale, laisse faire une multitude de gardiens. Donc là, il est plongé dans un univers où il y a plein de cellules, plein de gardiens, plein de gens en uniforme. Il ne peut s'empêcher de se départir d'un sentiment d'étrangeté. Il a la sensation visqueuse d'être catapulté dans un univers d'Asie de carton-pâte, nous dit-il. Quelque chose comme Grandeur et misère du Troisième Reich mis en scène par Planchon. En hauteur, à chaque étage, sur chaque balcon, sur toute la longueur, il y a un garde-fou. C'est-à-dire un long filet horizontalement tendu pour empêcher les détenus de se suicider en se jetant par-dessus la rambarde. Alors, pour chaque bras de... Attendez, j'ai perdu mon petit passage, voilà. Donc, quand il se retrouve dans cet univers entouré de gardes-chourmes, il précise que le regard est interdit. Il croise des gens, mais les gens baissent les yeux, personne ne se regarde. Il perçoit aussi que le vacarme est infernal, contrastant avec le calme du sanctuaire médical où il était précédemment. Il y a une très puissante sono qui diffuse sans cesse un programme varié avec beaucoup de musique pop. Il fait d'ailleurs à un moment donné une éloge, il dit que la musique pop a été inventée par les nazis, entrecoupée de différents signaux. Alors par exemple sur cette musique, sur la bande sonore de la radio, il y a des coups de klaxon caverneux, il y a des ordres à brayer. Donc, sorti de sa solitude, il transite dans cet enfer sonore, avec l'exiguïté de sa cellule, l'incapacité de s'isoler acoustiquement du vacarme général, Et donc, ça lui donne d'un coup une sensation physique d'être suspendu dans le vide. À l'inverse de ce qu'il ressentait au premier, où il était tout à fait rigide.
Ouais.
Donc après, je voulais une dernière partie de ce qu'il ressent. Je ne fermais pas l'œil de la nuit, comprenant progressivement toute l'horreur de la situation. En plus de la sonorisation générale qui se poursuivit imperturbablement jusqu'à 10 heures, au moins et sans brancher ma radio murale, j'entendais les 3 chaînes en même temps branchées par les co-détenus voisins revenus du travail. Chacun branchait sa radio en permanence pour essayer de s'isoler, paradoxalement. Singulière caricature visionnaire vécue sur le champ de l'événement infernal de la civilisation de consommation, la torture sonore 24-24. Toutes ces sources sonores se mélangeaient dans ma tête et m'infléchissaient du côté de la confusion mentale. Verminus, c'est ça le bruit de la civilisation, mais les conditions architecturales faisaient tout résonner ici de façon caverneuse. Alors commença le bruit des chasses d'eau, des rots, des paix et des borborygmes des autres insomniaques. Les conditions acoustiques étaient telles que j'étais obligatoirement informée par l'oreille de l'état fétide et malsain du tube digestif des co-détenus, entretenu par un régime de carence alimentaire chronique. La nausée montait en moi, une nausée vertigineuse. Allongée sur mon lit, j'avais la sensation physique d'être suspendue dans les airs, maintenue seulement par le tuyau des chiottes, les murs s'étant évaporés dans l'obscurité, en un vaste ensemble où d'autres individus se trouvaient maintenus de la même façon, et l'épouvante de passer une autre nuit, de porter à bout de bras ma solitude absolue jusqu'à l'autre nuit, dans ce vaste cloaque, me paraissait une difficulté insurmontable, même pas concevable autant que d'y passer l'éternité. La journée interminable se déroula dans les mêmes conditions de torture que la précédente, avec une nuit d'insomnie derrière moi et des travaux de terrassement sous mes fenêtres. Je me sentais devenir fou. J'avais un marteau-piqueur dans la tête. Il me semblait être détruit par le bruit même des travaux d'extension de cette œuvre de mort qu'est l'hôpital-prison de Wittlich. C'est pourtant dans cette cellule que, ivre de solitude, je commençais à avoir des hallucinations. Une fois, c'était un gardien que je voyais à côté de moi quand j'étais en train de pisser. Une fois, c'était un oiseau que je voyais évoluer dans l'herbe la nuit et qui m'intriguait car ses mouvements dépendaient de ceux que je faisais moi-même jusqu'à ce que je comprenne que j'hallucinais à partir d'une poussière en forme de V collée à la vitre. Voilà, ces deux petits passages pour illustrer que l'obligation ou la privation sensorielle nous amène à être fous, entre guillemets, et à provoquer des hallucinations et que c'est vraiment un outil manigancé de torture. Et donc on a essayé de faire des ponts. Je laisse la parole à Hello pour parler un petit peu de la RAF et de ses techniques.
Ouais, on n'a pas besoin de temps, du coup je vais juste dire que ouais, que ce qu'a vécu Gérard, donc il l'a bien vécu parce qu'il était soupçonné d'appartenir à la Rote Armée Fraction, donc la fraction armée rouge, et que les 80 militants de la RAF qui étaient emprisonnés, comme les militants prisonniers du mouvement du 2 juin ou du SPK, collectif socialiste des patients de Heidelberg, un collectif antipsychiatrique de l'époque, dont on parlera sans doute une autre fois. Ils étaient tous soumis au moins à l'isolement, et donc ce que décrivait Gérard Hoff, de promenades seules dans la cour, les mains liées dans le dos, visites minimales, courriers censurés, etc. Mais en plus, il y avait ce régime particulier qu'a notamment le plus longtemps vécu Ulrike Meinhof, bien que d'autres militantes de la Rote Armée Fraction l'aient subi. Meinhof, elle a été soumise à ce régime de juin 72 à février 73, donc 8 mois comme ça en isolement total. C'était dans une aile du bâtiment psychiatrie femme de la prison de Cologne, qui s'appelle Ossendorf. Et là, effectivement, elle était soumise à un régime où elle était coupée de toute perception de l'environnement, que 24 heures sur 24, rien n'était discernable comme changement. Les murs étaient peints en blanc, il y avait juste une petite étroite fente couverte d'un fin grillage qui permettait de laisser passer la lumière et une interaction.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle la torture blanche ?
Ben ouais.
Exactement.
Ouais, exactement. Ouais. Ça correspond la torture blanche.
Et ça correspond à ce que décrit l'ONU comme torture. Et en fait, il faut savoir que c'est cette forme de privation sensorielle, ça vient des États-Unis, c'était expérimenté dans les années 50 et 60, et en Allemagne, ça a fait l'objet d'un programme de recherche qui a commencé comme par hasard en 71, quand il y a eu les premières arrestations des militants de la RAF. Ce programme s'appelait « Aspects psychosomatiques, psychodiagnostiques et thérapeutiques de l'agressivité ». qui a commencé d'abord avec des étudiants volontaires, puis avec des soldats de la Bundeswehr, sur lesquels on observait, soumis sur une longue période à ce régime de privation sensorielle, on observait chez eux peur et réaction de panique, hallucinations visuelles et auditives, troubles des fonctions végétatives, déséquilibre moteur et tremblements. Puisqu'au final, les sens étaient complètement déboussolés, atrophiés, comme on assiste à une atrophie des muscles quand on est soumis à une immobilisation forcée et prolongée. Et donc cette torture, c'est ce qu'ont dû subir les prisonniers de la RAF. Meinhof, dans les lettres à son avocat, c'est l'objet d'une brochure, mais c'est aussi des textes qu'on peut trouver sur Internet, décrit un peu la sensation que ça peut procurer. Je peux vous en lire vite fait. Donc voilà, lettre d'une détenue du couloir de la mort, elle parle de ces sensations que ça procure. « Sentir ta tête exploser. » Sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Sentir ta moelle épinière te remonter au cerveau à force d'être comprimée. Sentir ton cerveau comme un fruit sec. Se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé. Sentir qu'on te vole tes associations d'idées. Sentir ton âme pisser de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau. Sentir la cellule bouger. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup. Mais elle bouge toujours, tu n'arrives pas à te dépêtrer de cette sensation. Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre. Impossible de t'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèles. Pour parler de façon audible, il te faut faire un effort. Il faut presque hurler, comme pour parler très fort. Te sentir devenir muette. Mais parce que les cellules étaient insonorisées en plus, donc même le moindre son n'avait pas la propension et l'amplitude habituelle. Ouais, voilà. Et donc, elle dit aussi, le quartier psychiatrique, dans une autre lettre, le quartier psychiatrique, c'est de la merde. À Ossendorf, comme partout, leur stratégie vise à anéantir, avec la participation des psychiatres, avec des méthodes conçues par des psychiatres et prônées par le Conseil de sécurité de l'État. Comme toute science impérialiste, la psychiatrie est un moyen, non une fin. La psychiatrisation est un des fronts de la guerre psychologique. Visant à persuader le combattant démoli de l'absurdité de la politique révolutionnaire, à lui ôter toute conviction. C'est aussi une technique policière, visant à le priver par la destruction d'une libération forcée, comme dit un des chefs de l'époque. Voilà, elle insiste bien sur toute l'utilisation politique qui peut être faite des outils psychiatriques et l'expérimentation sur l'homme, ses moyens de cognition, son fonctionnement... organique, voilà. Et comment ça peut bousiller, quoi.
Ben ouais, c'est affreux, hein.
Et elle est sortie de ce régime grâce à une grève de la faim de 40 prisonniers de la RAF qui a commencé en janvier 73. Elle est sortie 3 semaines après. Il faut savoir quand même que pour cette grève de la faim, l'État allemand a durci, entre guillemets, cette grève de la faim, puisqu'il a cessé de donner de l'eau aux prisonniers.
Wow.
Et certains sont tombés dans le coma. Ouais, voilà. C'est après la psychose, on se demande où elle est, quoi.
Ben ouais, tu parles, ouais. Moi, j'avais été dans une conférence où il y avait quelqu'un qui avait vécu la torture blanche et la torture physique. Et ce que cette personne racontait, c'est qu'il avait vraiment... C'était plus dur pour lui, la torture blanche, la torture psychologique. Parce que voilà, il disait que c'était des gens qui disaient bonjour messieurs, que c'était très poli, c'était bien habillé, que la cellule était très propre. Il a dit que c'était plus dur pour lui. J'imagine que ça doit être encore pire si c'est physique et la torture blanche, mais voilà. Moi, je sais pas, je peux pas dire qu'est-ce que c'est pire ou pas, mais en tout cas, voilà, cette personne, il sait qu'il avait très, très, très mal vécu, ouais. Comme ce qui disent les textes, ce que j'avais lu, ouais.
Voilà. Et bon. Donc, la psychiatrie au service de la torture.
Ouais.
La psychiatrie au service du manageriat, maintenant. Peut-être on vous en parlera. Bien connaître le rendement humain.
Ouais, pour une prochaine fois. Ouais. Alors ça y est, on dirait que c'est 9h, non ?
Ça dépend sur quelle pendule tu regardes.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et peut-être qu'un de ces quatre, quelqu'un nous téléphonera pour discuter. On sera ravis de discuter avec vous si vous nous appelez.
Voilà, alors vous êtes bien sur Canal Sud. C'est la deuxième fois qu'on fait Crio Cuervos. Dans 15 jours, ça sera la rediffusion. Et voilà, on attend beaucoup de fil. Oh, ça y est, incroyable. Un coup de fil, comme ça c'est fait. C'est juste à 9h, incroyable.
Il reste 30 secondes.
Juste 30 secondes. Ah non, 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 c'est pour nous féliciter. Attends.
La standardiste a pris l'appel.
Ouais. Une question.
veux passer à l'antenne?
Ouais.
tu l'as mise à l'antenne, elle avait dit non.
Bon.
Allô?
Okay, alors, apparemment, bon, c'était une affaire privée.
On va essayer de deviner.
Attention.
Qui c'est quoi la question?
Ah, c'était le nom de la conférence, tiens.
Bonjour.
Alors en fait, il y a quelqu'un qui téléphone à l'antenne pour savoir le nom de la conférence dont David a parlé. Conférence qui parlait de torture blanche.
Ça fait très longtemps. Et, ouais. Non, je ne me rappelle pas.
Il ne se rappelle pas. On peut faire l'astéréo.
Du coup, on vous dit à bientôt. Et on se retrouve dans 15 jours pour la rediffusion et dans un mois pour la prochaine émission. Merci.
On vous embrasse.
Crio cuervos.
Crio cuervos.
Crio cuervos.
Ou de la solidarité. Et pour finir, on va parler des sexualités dans la vieillesse. Et donc, c'est parti pour une heure et demie avec les voyelles.
Parlez-moi un peu du... Mais j'avais...
Prends le gâteau et mange.
Non, mais ça va, j'en ai déjà mangé. Mange-le,
ce morceau de gâteau.
Parlez-moi de quand vous étiez petite, de quand vous étiez jeune.
La prochaine fois, quand tu reviendras, je te le dirai. Écoute, on fera venir Dédé.
Mais non, mais c'est vous que j'ai...
Il y avait Dédé. Il y avait
Dédé, il parle volontiers.
Il y avait Dédé, nous te dirons beaucoup de choses que ça sort de, oui. de 50 ans presque en arrière.
Attends,
c'est pas vrai, ça.